très écrit votre introduction.
Oui, parce qu'après c'est le bordel, donc j'essaie de... Surtout, c'est la première fois qu'on fait ça avec toi, je voulais t'impressionner.
Oh. Ça marche.
Est-ce que tu es impressionné là?
Hyper okay. Impressionné, je tiens plus en place.
Bienvenue dans Il faut qu'on parle, un podcast consacré aux conversations sur les séries et tout ce qu'elles nous inspirent. Les networks ont fait leur rentrée et la plupart des nouvelles séries sont lancées. Tous les ans, cette rentrée est attendue, on la regarde, on la critique, souvent on la déplore. Pourtant, on y revient toujours et même de plus en plus. Pourquoi ? Les grandes chaînes méritent-elles tant d'attention ? Est-ce juste une habitude des médias ou le simple plaisir de dire du mal de la télé de masse ? Nous sommes là pour en parler. On va évoquer certaines de ces nouveautés, mais aussi élargir le débat vers cette question existentielle. Pourrais-je me passer de voir tous les pilotes pourris l'année prochaine ? Pour m'accompagner dans cette conversation, j'ai à mes côtés mon copilote Dominique Montet. Bienvenue Dominique.
Bonjour.
Et nous avons le plaisir d'accueillir Marie Turcan. Bienvenue Marie.
Salut.
Tu t'es pas présentée?
Bah oui, bah on va pas le faire toutes les semaines quand même. Vas-y, présente-moi.
Bon bah, et avec Yaël Simkovitch.
Bah c'est tout, tu fais pas une blague?
On enregistre un dimanche à 11h, faut pas espérer mieux.
Ok. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même faire une petite parenthèse news perso qui peuvent peut-être, on l'espère, vous intéresser. Tout d'abord, en ce qui me concerne, je vais avoir le plaisir de participer activement au tout nouveau Comic-Con Paris à la fin de la semaine. Je serai l'interprète d'un certain nombre de panels et parfois aussi l'animatrice. Bon, tout n'a pas encore été annoncé, mais si vous me suivez sur Twitter, je vous dirai tout ça. Et si jamais vous êtes dans les parages, n'hésitez pas à me dire bonjour. Ensuite, en ce qui concerne Dominique, je vous invite chaleureusement à écouter le nouvel épisode de son autre podcast, Dialogue d'auteur. Dominique, tu veux nous expliquer un peu ce que c'est, Dialogue d'auteur ?
Alors, Dialogue d'auteur, très simplement, c'est un podcast dans lequel je reçois des scénaristes pour parler métier et écriture. Et il sort à peu près tous les mois, s'il n'y a pas trop de problèmes. Et ce mois-ci, c'est Marc Herpoux.
Bien connu de Pigalle la nuit, c'est ça ?
C'est ça.
Vous trouverez le lien, bien en évidence, sur la page. Donc voilà, c'est fini pour les news. Maintenant, parlons de ce qui nous intéresse, c'est-à-dire, ou pas justement, la rentrée des networks, toutes ces grandes séries de grandes chaînes. Et je vais commencer par vous dire tout simplement, vous, ça vous intéresse, la rentrée network, tous les ans et cette année en particulier ? Marie,
ouais,
je te donne la parole.
Moi, ça m'intéresse toujours. Enfin, je suis pas la bonne personne pour commencer parce que moi, je vais être enthousiaste. J'aime bien ce rendez-vous. Donc,
Mais soyons enthousiastes, c'est pas toujours nécessaire de dire du mal de tout.
Bah oui, en plus, vous êtes deux ronchons, donc ça va être super, je vais être... Notre arc-en-ciel de bonheur en ce dimanche.
Je suis pas ronchon.
Ah voilà, attendez.
Non, c'est lui le ronchon. Mmh. Moi, je suis enthousiaste aussi. Bon, je suis enthousiaste critique.
Non, mais c'est hyper excitant quand t'es critique de série ou quand t'es journaliste de série ou quand t'es blogueur de série ou quand tu adores les séries, d'arriver au mois de septembre et septembre-octobre, maintenant d'ailleurs, parce que en fait, j'ai l'impression qu'il y a quelques années, c'était quand même vraiment septembre et là, on a les derniers pilotes qui sortent quand même jusqu'à la mi-octobre, donc ça change un peu. Mais ouais, c'est hyper excitant d'avoir ces nouveautés-là, d'avoir plein de propositions qui te sont projetées dans la tête en même temps. Et ça force ensuite à faire un travail de sélection qui est de plus en plus poussé et qui, à mon avis, redéfinit du coup un peu le travail de... des professionnels, que ce soit blogueur ou critique ou journaliste. Ouais. Je trouve qu'on arrive vraiment à quelque chose de... Cette rentrée-là, en particulier, montre que le journaliste série, son taf aujourd'hui, c'est vraiment de dire « Je me suis tout farci à votre place, voilà ce qu'il va falloir regarder, voilà ce qui peut marcher un peu, et si tu veux être cool à la machine à café, regarde ça en premier, et surtout évite de regarder ces 5 autres séries parce qu'elles sont vraiment horribles. »
Bah, en fait, moi, je suis assez d'accord sur le côté enthousiaste. Hein. Moi, j'aime les séries depuis que j'ai 5 ans. Et donc c'est pas le côté sériephile, spécialiste, machin qui est réveillé en septembre, c'est le côté gamin, plein de nouvelles histoires avec plein de trucs débiles qui vont me raconter et qui veulent rien dire. Parce que c'est ça aussi.
C'est un peu le côté, à quelques semaines de Noël, tu commences à voir les premières publicités pour des jouets quand t'es gamin.
C'est ça. C'est exactement ça.
C'est le côté rendez-vous. Tu te dis, waouh, punaise, ça va être génial, ça va être pourri. Oh mon Dieu, je veux voir absolument à quel point c'est catastrophique.
Surtout, il y a un côté tellement cliché des pilotes de rentrée, mais surtout des pilotes. Après, on va parler justement de la problématique de critiquer un pilote. Mais les pilotes, ou d'essayer de décider si on veut regarder une série sur un pilote, c'est tellement cliché que ça... En fait, il y a un côté nostalgie années 80, je trouve. Il y a un côté, ça me rappelle les séries des années 80 et 90 que j'adorais parce qu'il joue sur tous les stéréotypes de séries. Pour prendre des exemples, enfin, tu vois, tu regardes toutes les séries d'action de cette année, tu vois, que ce soit Limitless, Quantico, enfin, Minority Report, enfin, j'en oublie, mais il y a vraiment le côté, il n'y a rien de surprenant dans le pilote, c'est tout ce que tu attends, mais en plus tu l'attends, tu vois, genre à la minute 10, il va se passer un retournement de situation, à la minute 30, tu vas le voir avec son père en train de pleurer, enfin, et en fait, c'est le plaisir de la reconnaissance aussi, c'est-à-dire que oui, c'est cliché, mais du coup, je fais, oh, ils ont fait comme des trucs qu'ils faisaient avant.
Et puis, ce que tu dis sur les pilotes, c'est intéressant, c'est vraiment ça pour moi, par exemple, Limitless ou Minority Report, ou même Supergirl, c'est des mini-films, en fait. C'est un truc où ça devient, en 42 minutes, ils te font, ils doivent caser tous les personnages, ils doivent t'expliquer un petit peu comment est-ce qu'ils seront, ils doivent t'expliquer les enjeux de la série. Et, mais c'est souvent un peu raté parce que du coup, ils essaient de mettre un concentré d'énormément de choses dans 42 minutes et donc tu as le temps de rien développer. Donc tu as des petites scènes qui durent 5 secondes. C'est vraiment des scènes hyper courtes et ça, c'est le plus agaçant dans ces nouveaux pilotes-là. C'est que tu as le temps de rien développer parce qu'ils essaient de caser trop de choses. Et du coup, en effet, ça remet vraiment en question le concept de critiquer un pilote, parce que pour moi, quand j'ai vu Supergirl, le pilote de Supergirl, je me suis dit, bon, bah, j'ai vu un film. Enfin, c'est bon, j'ai vu un début, des péripéties, un climax et une fin. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont me sortir? Et ça, c'est quand même l'apanage des networks, enfin des séries networks.
Ce qui est assez.
C'est le moment où Dominique, Dominique, c'est le moment d'être grand chon. Vas-y.
Ouais.
Non, c'est pas du tout. Ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'à une époque, les pilotes, bon, je parle des années 80, 80, limite 90, les pilotes faisaient 90 minutes. Donc il y avait le temps de mettre tous ces éléments-là, c'est-à-dire de faire une histoire à la fois bouclée pour le pilote, mais aussi de présenter les personnages, présenter l'univers, présenter le fonctionnement de la série. Que maintenant, ils doivent faire exactement la même chose sur ces 90 minutes, mais en 40. Voire 41, 42, s'ils ont de la chance, voilà, s'ils ont la chance d'être sur une chaîne qui ne met pas non plus 25 minutes de pub pendant la diffusion. Mais dans mon souvenir, le dernier pilote d'une heure et demie que j'ai vu, moi personnellement, c'est Lost, et ça remonte déjà à plus de 10 ans, quoi.
11.
Et maintenant, ça, voilà. Donc, et maintenant, ça ne se fait plus du tout, le pilote de 90 minutes.
Maintenant, il y a des doubles épisodes, quoi. Genre,
épisode 1, épisode 2.
Ouais,
mais t'as vraiment des crédits très clairs comme quoi c'est épisode 1, épisode 2 et pas un épisode pilote d'une heure et demie. Et pour le coup, le premier épisode d'Heroes est vraiment le contre-exemple total du là, on a 90 minutes pour bien mettre en place l'univers.
On va revenir dessus. Mais sur Heroes Reborn notamment. Mais en fait, moi je pense surtout que c'est le problème que c'est on oublie aussi que le pilote. En fait, c'est quoi? C'est pour être annoncé aux upfronts, c'est pour être annoncé aux annonceurs, justement. Le pilote, en fait, ça fait des années que je me dis, c'est le moment le plus putassier d'une série, mais sauf que c'est pas putassier vis-à-vis du public, ça l'est vis-à-vis du marketing. En fait, clairement, ils adressent ce pilote, tous ces enjeux à la con stéréotypée. C'est, je pense, plus pour plaire à des annonceurs publicitaires que pour plaire à un public qui va revenir. Et je me rappelle l'année dernière sur How to Get Away with Murder, que d'autres gens ont plus aimé que moi, mais moi, ce qui m'a vraiment dérangé dans le premier épisode, et en fait, c'était une tendance générale des pilotes que j'ai retrouvé un peu cette année, même si je pense que c'est pire l'année dernière, c'était d'avoir trop de retournements de situation. Donc, au-delà de mettre trop dans le pilote, mais déjà beaucoup trop de twists sur les enjeux des personnages avant qu'on ait eu le temps de s'attacher à qui que ce soit. Ce qui, du coup, fait du gâchis de retournements émotionnels pour un personnage, parce que vu que je te connais pas, que je t'aime pas, comment veux-tu que ça m'intéresse que ton père soit mort, pour prendre un exemple. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je suis sur un délire sur les pères. Que j'ai trouvé, qui m'a fait penser à l'époque, en fait, c'est parce que le mec qui choisit de foutre sa pub sur la chaîne pendant que passe cette série, il réagit pas non plus vis-à-vis de ses propres goûts, mais par rapport à ce qu'il pense être les goûts du public. Vous voyez ce que je veux dire ? On est sur des gens qui parient sur les instincts les moins glorieux d'un public de masse.
Mais dans ce cas-là, tu n'aurais pas du tout ça des séries du câble ? Enfin, que ce soit FX ou AMC.
Bah, je trouve que les pilotes sont moins putassiers.
C'est ce que je veux dire, c'est que leurs pilotes sont plus installés. Parfois, ils font quand même une heure en moyenne, les pilotes des séries du câble aujourd'hui. Pourquoi
pas sur FX.
Ils ont quand même le. Du coup, le. Eux ils réussissent à faire des pilotes qu'on apprécie, donc pourquoi eux ça veut dire qu'ils n'ont pas le
même modèle économique.
Ouais.
Ils n'ont pas le même modèle, et puis c'est des chaînes qui se connaissent très très bien.
Ils n'ont pas, les upfronts ouais, où ils sont dans la même semaine face à tous les autres. Je veux dire, c'est quoi un pilote? Excuse-moi Dominique, tu pourras.
Vas-y.
Un pilote, c'est quoi? Un pilote, c'est 42 minutes pour prouver la faisabilité du truc économiquement. Auprès de la chaîne, auprès, c'est aussi le showrunner, il montre qu'il est capable de gérer son équipe, sa prod pendant la production du pilote. Enfin, il y a ça, hein, il y a vraiment un côté, je prouve que je sais le faire, je sais gérer mes acteurs, je sais gérer mes machins et tout ça. Et deuxièmement, ça nous donne de quoi faire un trailer qu'on peut montrer aux upfronts, où pendant l'espace de 5 jours, tous les annonceurs vont voir l'intégralité de la grille de toutes les grandes chaînes, et on est en compétition avec tous les autres. Ouais. Et donc, c'est ça. Un pilote, pour moi, c'est les rushs d'un trailer putassier qui va plaire, je veux dire putassier 12 fois dans ce podcast, ou 25, qui va plaire à des gens qui vont mettre de l'argent en disant « Oui, je veux que ma série soit... je veux que ma publicité passe au moment où Mélissa George joue la médecin au cœur brisé. » Parce que je pense que ça va plaire
à
la ménagère de... Elle est en mid-season, elle arrive au début de l'année 2016. Mais tu vois, c'est... parce que là, le publicitaire, il dit « Ah, ça a l'air débile ce truc », mais en même temps, je pense que ça va plaire à la ménagère de moins de 50 ans. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il y a une perversion dans le fait que c'est des gens qui parient sur les instincts de storytelling du grand public. Mais bon, c'est ma théorie.
Non, puis après, on parle d'FX, mais c'est FX, c'est une chaîne qui est totalement en confiance. Je pense qu'il n'y a pas plus en confiance que FX à l'heure actuelle. Donc, ils peuvent se permettre de faire à peu près ce qu'ils veulent. Ils ont leur public, ils connaissent leur propre marque et ils savent quoi faire. Ce n'est pas du tout le cas de certains networks. NBC, c'est une catastrophe. La Fox, c'est à peu près ce qu'elle est, et encore, je doute. ABC, c'est compliqué. CBS, c'est absolument ce qu'elle doit faire. Donc, mais bon, le problème, c'est que CBS, ce qu'elle sait faire, c'est ne pas prendre de risques. Donc, du coup, la CW est quand même très, très à l'aise, je trouve, vis-à-vis de sa programmation.
Je trouve qu'ABC aussi. Hein.
Ouais. Moi, je suis moins convaincu. Hein. Sur les comédies, c'est quand même une catastrophe.
Ah oui.
Je trouve. Mais bon.
Je pense au gros drame. Enfin, au gros. Je pense
ouais, à d'accord.
Quantico,
avec.
Tu peins. Hein. Ouais, c'est ça. Et
pour moi, c'est une évidence. Quantico sur ABC, ça peut.
Oui.
Le Shondalite.
Exactement.
Quantico.
Oui, c'est ça. Mais non, mais CW. De toute façon, moi, ça fait longtemps que je dis CW. CW l'année dernière, ils avaient deux nouvelles séries. C'était The Flash et Jane the Virgin, qui font partie des deux seules séries l'année dernière qui ont tenu le coup toute l'année.
Ah oh, non, The Flash, c'était horrible. Ah non, on n'a pas le droit.
Moi, personnellement, j'étais beaucoup déçue par The Flash, que j'ai beaucoup aimé au début. En plus, moi, je fais confiance à Berlanti, et moi, je suis Arrow, et je suis tous les trucs de super-héros. Et j'avoue que The Flash manque de substance de façon ahurissante.
Et de finesse. Mais,
oui. Mais surtout, en plus, il y a des trucs complètement... Enfin, c'est vraiment... C'est... Oui, ça n'a aucune... Il n'y a aucune métaphore, en fait. Donc, ce qui, pour moi, pose un gros problème... Mais au point de vue de son, par rapport à son public, par rapport aux gens qui la regardent, machin, il y a une espèce de stabilité de The Flash et de Jane the Virgin pour le coup où c'était mieux que les autres séries de toutes les autres chaînes de l'année dernière n'ont pas vraiment réussi à avoir quoi. Et donc ça montre que CW connaît son business, même si effectivement je suis d'accord que The Flash doit être mieux. Mais on oublie toujours que CW et CBS c'est les mêmes,
c'est le même groupe. Comme FX et Fox. Hein.
Ouais. Mais CW et CBS, c'est les deux côtés du spectre d'un point de vue image et d'un point de vue audience. Il y en a un, c'est la plus basse, l'autre, c'est la plus haute. Mais n'empêche que c'est on sent que c'est la même politique.
Pour moi, regarder un pilote ne dit rien sur ce qu'on va voir. Un pilote de network ne dit rien sur ce qu'on va voir comme série après.
Ouais,
c'est drôle parce que The Grindr, adresse ce problème justement assez... Ils sont quand même assez méta dans cette nouvelle série avec Rob Lowe.
Ah, ils sont complètement méta.
Et l'épisode 2...
J'ai vu que le 1, justement. Donc, tu veux expliquer juste ce que c'est que la série, juste pour les gens qui n'ont pas eu le temps de regarder ?
Rob Lowe joue un acteur dans la série, et cet acteur joue un avocat dans une série. et la série est annulée ou elle s'arrête après 5 saisons et donc Rob Lowe se retrouve
8.
À
8 saisons,
8
c'est
saisons.
Un truc monumental.
Ah oui, d'accord. Et Rob Lowe se retrouve à pas savoir quoi faire de sa vie et donc il décide, il se dit j'ai joué un avocat pendant si longtemps, en fait est-ce que je pourrais pas devenir avocat? Et donc il rejoint la firme familiale avec son frère qui lui est vraiment avocat. En pensant que parce qu'il a joué un acteur pendant 8 ans, il sera un très bon avocat. Vous m'avez compris. Enfin, et en tout cas, du coup, pour l'instant, les deux épisodes que j'ai vus commencent par la famille tout entière qui regarde la série de l'avocat, la série The Grindr. Et donc, ils font cette blague en disant « Ah non, mais ça, c'était l'épisode pilote, tu vois, c'était... c'était facile, enfin c'était un pilote hyper fort, mais ensuite avec l'épisode 2, il y a beaucoup de responsabilités sur leurs épaules, et puis ils doivent vraiment réussir à transformer le truc, et c'est pas facile. » Et ils discutent de tout ça pendant l'épisode 2 de... tu sens c'est bien, super. Et je trouve ça hyper chouette, parce que c'est malin, et ils ont tout à fait raison de le dire, au-delà du pilote. Aujourd'hui, un pilote, c'est quelque chose de... qui peut tenir et qui peut faire un bon divertissement de 40 minutes, mais il n'y a pas toujours une série derrière, quoi.
Et sur les comédies, c'est encore plus flagrant, parce que, encore plus que les dramas, la comédie met parfois beaucoup de temps à se trouver. Mmh. Tu vas avoir des excellentes comédies qui vont être vraiment pathétiques, pas bonnes, voire pathétiques, pendant 8-10 épisodes.
Ouais.
Et puis quand ils vont commencer à trouver le ton, ou changer l'axe, ou savoir quoi faire tout simplement avec leur comédien, là, d'un seul coup, ça va commencer à devenir bon.
Ouais.
Une série comme Parks and Recreation, la première saison de 7 épisodes est vraiment pas terrible.
Oh non,
et ça commence à être bon.
Ah,
oh, si,
j'ai
adoré. Oh, si, c'est pas...
Non, mais par contre, c'est sûr que la première saison a été très difficile à vivre pour plein de gens.
Oui.
Et d'ailleurs, ils ont les tests étaient hyper
mauvais.
Mais
je comprends, ouais.
Personne comprenait la série,
ouais.
Donc oui. Mais il n'y a que 6 épisodes, par contre.
Et comment dire, Seinfeld, c'est pareil, la première saison est vraiment pas terrible.
Il n'y a que 5 épisodes.
Ouais, ouais, mais c'est pas terrible quand même. Et ça te dit pas vraiment ce qui est devenu la série, en fait. Ça c'est vraiment... pour Seinfeld, il y a eu l'intégration du personnage de Julia Louis-Dreyfus qui était vraiment importante pour la série, pour la dynamique. Mais t'as beaucoup de choses comme ça. Enfin, 30 Rock, je trouve que les premiers épisodes sont pas très bons, puis ça devient vraiment bon après. Enfin, il y a beaucoup de séries comme ça, humoristiques. Il leur faut le temps de faire. Donc un pilote, c'est vraiment ingrat pour une série humoristique. Et je parle même pas des trailers, et je voudrais faire juste une petite parenthèse là-dessus, c'est quand tu suis vraiment l'actualité des séries, tu t'es fadé tous les trailers avant de voir les épisodes.
Ouais.
Pour certains épisodes, c'est juste le désamorçage complet. Moi, je vois Life in Pieces,
ouais.
Le pilote, le trailer, c'est le pilote, mais divisé par deux à peu près. Donc, en fait, t'as tous les points qui sont censés être drôles du pilote montés de manière beaucoup plus rythmée. Et du coup, quand tu regardes le pilote, tu te dis, mais en fait, j'ai déjà vu tout ça et il n'y a rien de plus dans le pilote que dans le trailer. Donc, c'est assez... C'est assez gênant vis-à-vis de ça.
Mais moi, je pense que ça, c'est la grosse incompréhension franco-américaine sur ce que c'est qu'un trailer. Aussi parce que, enfin, moi, je me rappelle toujours du trailer de Sauver Willy. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Où, moi, j'ai jamais vu le film, mais à l'époque, j'allais déjà beaucoup au cinéma quand j'étais gamine. Et en fait, le trailer, la fin du trailer, c'est « Il sauve Willy ». Et donc, en fait, tout le trailer, c'est tu le vois, donc tu le vois rencontrer la baleine, machin, machin, et ça se termine, et tu le vois courir, et à la fin, t'as le Willy qui saute, quoi. Et, enfin, qui plonge, enfin, je sais pas, enfin, ce que font les baleines, whatever.
Ouais,
qui
saute par-dessus le gamin, enfin,
voilà, c'est ça. Et du coup, ça, c'est dans le trailer. Et en fait, c'était la première fois que j'ai réalisé que les trailers américains te racontaient le film. Et en fait, il s'avère que le public américain est friand de ça. Enfin, en tout cas, c'est la théorie qu'on dit là-bas. C'est que les Américains, ça ne les dérange pas de savoir ce qui va se passer dans le film. Ils veulent que le trailer leur dise ce qu'il va y avoir dans le film. Et je pense que c'est pareil avec... Et du coup, ça crée une culture complètement différente du trailer. Et les seuls qui... Et ça explique pourquoi à chaque fois qu'on regarde un trailer américain, on est là, mais arrêtez de nous raconter le film ! Ils le font exprès, en fait.
Ouais.
Et parce que les gens ne vont pas payer une place de cinéma sans savoir à quoi s'attendre.
Mais là, ils payent pas. Pour les séries.
Oui, non, mais ce que je veux dire, mais en tout cas, c'est ce qui est, et c'est la tradition qui vient du cinéma. Et pour moi, les seuls trucs qui ne font pas ça, c'est Pixar, où c'est les seuls trailers qui ne te racontent jamais l'histoire du film. Ils te racontent
mais
l'univers, mais pas l'histoire.
Ce qui est dingue avec les séries, c'est qu'en effet, les trailers de cinéma, tu as l'habitude d'être face à des objets qui font 45 secondes, une minute maximum. Et les trailers de séries, donc sur des produits qui sont au final plus courts, font parfois entre 6 et 8 minutes.
Ouais.
Donc c'est plus des trailers, et j'ai l'impression qu'en fait ils diffusent juste les bandes démos qu'ils ont envoyées aux annonceurs ou je ne sais quoi, un truc qui devrait rester en interne des chaînes, ils le diffusent au
grand
public.
Mais c'est absolument ça, mais ils ne le diffusent pas au grand public en fait. Enfin, ils les mettent maintenant en disposition.
Oui, ils les mettent à disposition. Ouais.
Mais quand les vraies promos sortent, celles qui sont, tu vois, qui commencent à être diffusées à partir de septembre, là, tu vas voir ces trucs de 30-40 ouais. secondes. Mais en fait, c'est ça. Mais
ouais, voire même plus court.
Non, mais en fait, ça revient au truc. Tout à l'heure, je disais, on y vient de plus en plus. C'est aussi parce qu'avec Internet, on a accès à beaucoup plus d'informations sur les nouvelles séries. Et du coup, tout d'un coup, le calendrier des nouvelles séries, on le prend au sérieux avant qu'il existe. Alors qu'avant, surtout en France, on attendait que les trucs arrivent jusqu'à nous, quoi, ou d'en entendre parler. On n'était pas au taquet sur les trucs qui vont avoir que deux épisodes à la fin. Et là, en fait, l'accessibilité d'information nous rend tous beaucoup plus regardants sur ce qui se passe. Ouais. Mais en fait, ce qui est rigolo avec ce rendez-vous, je trouve, c'est que maintenant, le câble est en train de suivre. C'est-à-dire qu'alors qu'on passe tous les ans, et surtout les critiques américains ont beaucoup dit cette année, enfin, il y a un de mes critiques préférés qui a écrit « Brûlez-les tous » comme titre d'article sur les pilotes de la rentrée. Au moment où tous les critiques détestent tout ce qui se passe sur les grandes chaînes, on se rend compte que le câble relance ses saisons 2 notamment, et parfois saison 3, 4, 5, au même moment, comme si eux aussi tout d'un coup ils s'étaient mis sur le pas du calendrier network, et on a Homeland, The Affair, The Leftovers, The Nick, You're the Worst, Manhattan, Fargo, qui débarquent ouais. en même temps que tout le reste. C'est étrange, non?
Au grand dam de notre vrai. Sommeil.
Oui. C'est ouais. clair.
Non, mais c'est vrai que moi aussi, ça m'a surpris parce que justement, comment dire, tu avais Kevin Reilly avant de partir de la Fox qui disait la saison des pilotes est terminée. Il voulait s'inspirer pour le coup, lui, du câble et donc délinéariser complètement son calendrier, faire sortir des séries à n'importe quel moment pour justement sortir de ce truc-là et singulariser ses sorties. Et au final, on s'aperçoit cette année que le câble ou le câble basique. Balance énormément de choses en même temps que les networks, alors que traditionnellement ils attendaient un petit peu, je crois comme Homeland l'année dernière, je sais pas si c'est pas sorti en novembre ou un truc comme ça, enfin il faudrait que je regarde
les
dates.
Il me semble
que
Homeland c'est toujours la même, c'est toujours à peu près à la même période.
Fargo c'était avril.
Ouais.
Fargo c'était avril.
Leftovers c'était l'été. Manhattan c'était l'été. Voilà. The Worst c'était l'été. The Nick c'était l'été. Elles étaient toutes
et
en
là,
été.
Et là on a presque l'impression que cette année c'est bon bah écoutez on va tout balancer en même temps pour que le téléspectateur ait le choix face à lui et se demande pas mais attends mais c'est nouveau ça ou pas, non c'est nouveau, bah oui c'est en septembre octobre c'est nouveau donc je vais me mettre dessus, une façon de le rassurer ou de se rassurer eux-mêmes, c'est vrai que c'est assez surprenant et ça change un petit peu le modèle.
Et stratégiquement est-ce que j'ai du mal à savoir ce qu'ils peuvent en retirer à part profiter de l'effet de rentrée et du coup de cette rampe de lancement où il va y avoir beaucoup plus de papier sur les séries, il va y avoir beaucoup plus d'intérêt.
Ben, je pense que c'est ça, ouais. C'est un petit peu comme la rentrée littéraire. On se dit toujours ouais. que c'est pourquoi ils balancent tous les bouquins d'un coup. Je pense que ça a un intérêt économique, c'est que en effet les gens leur cerveau est façonné pour mieux appréhender les nouveautés à ce moment-là parce que c'est la saison des nouveautés.
Mais au risque d'être noyé.
Ouais, mais il y a un truc sur le fait que les je pensais à ça, c'est quand un film sort en janvier ou en février aux États-Unis, tout le monde dit « Ah, on sait déjà que c'est une merde, sinon il ne le ferait pas sortir en janvier. Ouais. » Parce que c'est la période creuse, donc ils se disent « Si les studios le sortent à ce moment-là, c'est qu'ils sont vraiment désespérés. »
Tu as la même réflexion sur les soirées de diffusion aux États-Unis, où ouais. en fait tout le monde se disait « Mais pourquoi vous diffusez tous vos trucs soi-disant excellents le dimanche soir
ouais. ?»
Ben, ils disent justement parce que c'est pour montrer aux gens que c'est excellent.
Ouais.
On le met le dimanche soir parce que c'est très bon. Et moi, du coup, tu te retrouves avec les dimanches soirs qui sont hallucinants au ouais. niveau de la programmation.
Quand t'as juste The Good Wife, en plus, ouais, ça, t'as The Good Wife sur les networks et t'as toutes les séries de câbles.
Ouais.
C'est ça.
Ouais, parce que ça, The Leftovers, ils sont tous le dimanche.
Ils sont tous le dimanche soir.
C'est horrible. Mais en même temps, on parle beaucoup de délinéarisation depuis des années, mais moi, je pense qu'on est habitué à regarder les choses un peu comme on veut, quand on veut, mais je crois à la force psychologique du rendez-vous. Et en fait, qu'il y a quelque chose d'excitant dans le fait de faire partie d'un phénomène culturel global. C'est comme le fait d'aller voir un film le premier jour de sa sortie, quoi. Et que du coup, je pense que plus on dit qu'on s'éloigne, il y a tout un tas de gens qui disent on va s'éloigner, on s'en fout, tu vois, que ce soit Kevin Reilly qui dit on va faire des nouvelles séries tout au long de l'année, blablabla, blablabla. Je pense qu'il y aura toujours des gens qui vont revenir, qui vont continuer à miser sur le fait que le public, il aime être rassuré par le calendrier. Il n'a pas envie d'être surpris. Je veux dire, il a assez de trucs à décider dans sa vie, le public. Les séries ou le divertissement, c'est là pour les rassurer, pour être disponible. Et donc, je pense que, en fait, plus on croit que les gens vont changer les règles, plus on va revenir à des trucs traditionnels.
Et pourtant, ce n'est pas vraiment le rendez-vous télévisuel devant le poste, j'imagine, qui plaît vraiment, qui rassure les téléspectateurs, parce que, déjà, techniquement, ils ne peuvent pas tout regarder, par exemple, le dimanche soir. Qu'est-ce que... c'est vraiment l'imaginaire d'une rentrée, quoi. Une espèce d'excitation monumentale autour du retour des séries.
Je pense qu'il y a le côté devant le poste, déjà, parce qu'ils ont le DVR, quand même, qui est hyper, hyper courant. Enfin, hyper
courant. Oui, mais du coup, c'est pas le rendez-vous de programmation de diffusion, quoi. C'est à 20h50, on va se mettre devant la télé, parce qu'à 21h30, on aura loupé un épisode.
Bah moi, quand j'écoute des podcasts d'amateurs de télé américains, tu te rends compte qu'ils ont des rituels assez spécifiques. D'accord. The Good Wife, je le regarde en live. Pendant ce temps-là, j'enregistre tel truc que je regarde à 11h. Le machin, je regarde machin. Ça, je le regarde le lundi matin. Ça, en fait, je pense qu'ils créent des rituels assez similaires. Déjà parce que, en fait, finalement, ils téléchargent très, très, très peu. Hein. De toute façon, je pense qu'on est le pays qui télécharge le plus, les Français.
Non, on n'a pas le choix.
Et oui, voilà, c'est ça. Et donc, amis programmateurs.
Enfin, je parle des autres gens, bien sûr, pas de moi, mais. Les gens bien qui sûr. Téléchargent.
Non. Nous sommes bien au-dessus de ça. Mais effectivement, les gens qui téléchargent, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Mais,
ces gens-là.
Non, ces gens-là. Mais, non, mais c'est rigolo, ce côté de penser que les gens, ils s'en foutent du rituel, quoi. Je veux dire, le principe de la série, c'est de créer du rituel. C'est pour ça qu'on aime les séries. C'est parce que c'est un univers dans lequel on peut revenir. Moi, je sais que le binge, machin, c'est génial, mais... Je soutiens mordicus que le binge, c'est une forme d'appréciation de série où on regarde 12 épisodes d'un coup, mais que le vrai amateur de série, il va toujours aimer son truc où toutes les semaines, il se passe un truc différent dans sa série, quoi. Et que du coup, tout ce qui est rituel, tout ce qui est tradition, tout ce qui est rendez-vous, même devant le poste. Tu vois, moi, c'est pour ça que je pense toujours que Empire, il y a tout un truc communautaire sur Empire que tout d'un coup a été regardé par toute une population qui ne regardait pas trop la télé. Mais il faut aussi savoir que dans toute une partie de la communauté afro-américaine, middle class, il y a beaucoup plus le rituel de regarder la télé en famille.
Ah ouais.
Apparemment, moi, c'est des choses, les phénomènes sociétaux, c'est toujours hyper difficile de cibler si c'est vrai, mais apparemment, c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus ce côté familial, ce qui voudrait dire donc que ce serait logique que d'une population à qui on n'avait pas vraiment donné de programme qui leur ressemblait, même si c'est complètement excentrique, Empire, mais ça a quand même la qualité d'avoir plus de personnages de couleur que de personnages blancs, c'est quand même rafraîchissant. Et que tout d'un coup, du coup, bah, y a un phénomène qui s'est construit autour, quoi. Et je pense que c'est le phénomène de regarder la télévision ensemble.
Et c'est marrant parce que, pour revenir à The Grinder, dans le troisième épisode, t'as une des pistes narratives qui est, en gros, les enfants ont effacé un épisode de Ray Donovan sur le DVR. Et t'as le grand truc, c'est qui est-ce qui a effacé l'épisode de Ray Donovan sur le DVR?
Donc, c'est dire qu'il a regardé quoi.
Un gros débat là-dessus. Hein ?
La question, c'est est-ce que qui a regardé Ray Donovan ?
Ouais, c'est ça, c'est ça. Et du coup, c'est vachement drôle parce qu'ils adressent le truc de comment est-ce que la famille américaine regarde la télévision. Bah, voilà, les parents, ils enregistrent Ray Donovan, ils le regardent plus tard, ils ont leur rituel et tout. Et là, les enfants l'ont effacé, c'est le grand drame. Et t'as une des filles qui dit, mais je comprends pas, ils ont qu'à le regarder sur la VOD, c'est encore disponible. Je comprends pas le problème. Donc c'est assez rigolo la façon dont la série... au-delà de d'aborder de façon méta la construction d'une série, traite aussi finalement la façon dont elles sont diffusées.
En fait,
c'est par la même occasion, on parle de Ray Donovan qui est sur une chaîne concurrente. Mais
surtout, qui regarde Ray Donovan, quoi ? Enfin, moi, c'est ça ma question. Genre, des gamins, ils regardent Ray Donovan.
Moi, je connais des gens très bien qui regardent Ray Donovan.
Bon, d'accord, mais.
Des noms.
Des ados, des partie. Jeunes ados américains. Non, j'ai du mal à imaginer que ce soit fascinant pour eux. Bon, passons.
Ce qu'il faut retenir de ce podcast, du coup, pour l'instant, c'est que The Grinder est quand même génial et va nous faire, va nous faire tout le podcast à elle toute seule, en fait.
Bah, ce qui
on va en parler tout à l'heure.
Et de toute façon, c'est ça aussi, c'est qu'on critique et on parle des pilotes une fois qu'ils ont été diffusés, mais c'est là pour ça aussi que le but aujourd'hui, c'était pas de faire une liste exhaustive de ce qui est passé, de ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, parce qu'en fait, c'est le temps qui va dire, quoi. Déjà là, on sait The Grinder, c'est mieux que les autres, juste parce qu'on a envie d'en parler. Et je pense que dans 2 semaines, 3 semaines, on verra les trucs qu'on a toujours envie de regarder et dont on a encore envie de parler, quoi.
Ouais.
Bah écoute, moi, c'est la première année où je me suis un peu forcé à regarder déjà tous les pilotes et aussi essayer de pousser un petit peu sur certaines séries. Et du coup, je suis assez agréablement surpris sur certains titres dont j'attendais vraiment, mais pour le coup, rien du tout, quoi.
Parce que t'as dépassé le pilote ou juste...
Parce que j'ai dépassé le pilote ou ouais. Parce que j'ai été juste intrigué ou parce que juste je me suis mis à regarder des pilotes que, sur la base de du trailer, j'allais pas forcément regarder, quoi. Quantico, après le trailer, je me disais, ouais, non, j'ai pas spécialement envie de pousser. Et puis finalement, j'ai continué. Et, là, je continue à regarder la diffusion. J'ai très, très peur de la façon dont ça va évoluer. Mais au moins, je continue, quoi. Et il y a pas mal de séries cette année. The Grinder, Grandfather, je continue pour voir. Pour voir jusqu'où ça va, pour voir ce que ça donne, quoi.
Non, mais Grandfather, tu regardes juste à cause de Paget Brewster.
C'est exactement ça, oui, je sais. Busted.
Tellement prévisible, Dominique. Moi aussi.
J'adore Paget.
Il y a un article récent que j'ai lu de Linda Holmes où elle parle de ce que c'est que d'écrire sur la télévision. Et elle cite une interview avec Tarantino où Tarantino dit qu'il regrette que The Newsroom se soit terminé.
Ah ben, bien le seul.
Voilà, et auquel, je ne sais plus avec qui elle interview, mais la personne qui l'interview lui dit, ben, en même temps, les gens n'étaient pas très fans, et il dit, non, mais les critiques n'ont gardé que le pilote, et il dit, les pilotes, c'est de la merde. Donc je dis, Tarantino a dit, les pilotes, c'est de la merde, donc il est de notre côté. En même temps, je pense que dans la critique des pilotes, je pense qu'il y a quand même un schadenfreude, le plaisir de dire du mal.
Ouais.
Parce que c'est facile de dire du mal des pilotes et qu'il y a un peu le côté quand même snob du critique télé qui regarde des séries vachement profondes et intelligentes sur le câble et qui va tout d'un coup regarder des pilotes de Network qui sont pas du tout faits pour être appréciés de la même façon que le pilote de Mad Men, tu vois, tu peux pas comparer les choses et qui du coup va dire ah ouais c'est nul, c'est cliché, c'est machin, alors qu'en fait ben c'est passé à côté de ce que cette série-là essaie de faire, quoi.
Ça dépend. Enfin, pour le coup, ayant fait l'article avec avec la Pomares qui s'appelle les pires séries, les pires pilotes de la rentrée, en effet, hein, ça c'est hyper jouissif. Mais je t'assure que c'était pas jouissif sur le moment de se les taper. Déjà, faut avoir une certaine cohérence et savoir reconnaître quand une série de network est bien et du coup pas seulement s'arrêter à un article sur les pires pilotes, c'est pour ça dire qu'on va faire un article sur les meilleurs pilotes.
C'est marrant que tu choisisses le pilote de Mad Men, parce que Mad Men, même si au niveau esthétique et au niveau qualité d'écriture, ça se démarque, au niveau structure du pilote, finalement, c'est hyper classique. C'est on ne peut plus classique, c'est ce
moi,
que tu retrouves dans tous les pilotes. C'est ce que tu retrouves dans tous les pilotes traditionnels de séries, qu'ils soient de network ou de comment dire du câble. C'est juste la différence, voilà, c'est qu'ils sont sur AMC, ils ont sûrement eu plus de temps pour l'écriture, ils ont moins d'épisodes à fournir,
ils ont John Hamm,
ils ont une réal et une direction artistique qui se pose là quand même, et du coup ça fait toute la différence au-delà de la qualité même intrinsèque du texte, qui était un pilote je crois qu'il essayait de vendre depuis 10 ans déjà, donc il avait eu le temps de retravailler à foison. Et une série comme Quantico ou comme Limitless, c'est des projets qui ont été montés quoi en janvier, février, et puis ils sont lancés dans le truc en quatrième vitesse, et pour certains ça se voit vraiment, quoi.
D'ailleurs, je voudrais me faire de l'auto-promo à ce sujet. J'ai écrit un article qui s'appelle « Il était une fois un pilote dans le premier soap », le merveilleux MOOC sur les séries, et dedans je parle justement de à quel point on a l'impression que c'est du luxe l'industrie américaine, et en fait à quel point c'est un broyeur à idées sur comment on monte un pilote en fait en quatrième vitesse avec 12 milliards de commandes contradictoires, et que quand on croit qu'on a gagné le gros lot en étant choisi, on se rend compte qu'on doit créer la série en l'espace de 2 semaines pour commencer l'écriture. Et je pense que ça reflète ça effectivement. Mad Men, une fois qu'il a eu le feu vert, ça faisait 8 ans qu'elle vivait avec lui cette série, donc je pense qu'il avait plus conscience de ce qu'il voulait dire avec. Mais ça revient aussi sur le côté Matthew Weiner, il a bossé sur des séries network, non? Avant de bosser
oui,
sur
tout
les
à fait. Il bossait sur des comédies. J'ai pas les titres en tête, mais il bossait sur des comédies.
Et avant. Moi, ça revient
sur les networks avant les Sopranos.
Mon truc que je dis toujours, qui est C'est grave que les networks fassent de la merde ou qu'il n'y ait pas assez de grandes bonnes séries sur les networks, parce que c'est là que les futurs showrunners du câble apprennent leur métier.
Bien sûr, bien sûr.
C'est en allant dans la mine, comme dirait Troubi quand il parle de son expérience sur 21 Jump Street. Si tu vas dans la mine tous les jours, c'est 21 Jump Street ou Mob Squad ? Enfin, en tout cas, le fait que tu apprends le métier de scénariste en devant écrire 22 épisodes par saison et en trouvant...
David Chase, il travaillait sur les networks avant de faire Les Sopranos.
Absolument.
Alan Ball, il faisait une comédie avec Cybill Shepherd que je trouvais moi personnellement assez dramatique avant
Cybill
de faire Six Feet Under. Ouais.
J'étais fan de Cybill moi quand ça passait sur
Teva. Pas moi. Ouais, je sais, je le regardais aussi. Tous ces mecs-là, ils ont fait leur... Vince Gilligan, alors je parle même pas, parce que X-Files, ça a été un centre de formation pour futurs showrunners assez monumental.
Oui, mais voilà.
Mais il faut des séries comme ça sur les networks qui forment quelque part ceux qui vont être... ceux dont on dit que le travail est absolument formidable après, quand ils viennent sur les networks, sur les chaînes du câble. Mais quand tu regardes un des plus gros centres de formation de showrunner, c'était la série avec Don Johnson. Comment ça s'appelle?
Oui, c'est ça, Nash Bridges. Je sais, à chaque
Nash
fois,
Bridges,
on a
Damon
listé
Lindelof,
le nombre de gens qui ont voté pour Nash Bridges.
Sean Ryan, Glenn Mazzara. Enfin, c'est un Hall of Fame, quoi. Et tu te dis, c'est Nash Bridges. Mon Dieu. Quand tous ces mecs sont réunis pour travailler ensemble, c'est sûr, Nash Bridges.
T'as déjà vu ton Nash Bridges, Marie? Parce que moi, j'ai pas vu non plus. Et je me dis, mais en fait, ça va peut-être le coup de... En fait, ça me fait penser à cette anecdote que j'adore sur Battlestar Galactica, qui est que Ron Moore, donc, qui était sur Next Generation, on est d'accord? Star Trek Next Generation?
C'est ça.
Et la plupart du staff de début de Battlestar Galactica, c'était que des gens de Next Gen. Et qu'en gros, il les a tous réunis. Et l'anecdote, c'est qu'il a dit, bon, vous vous rappelez tous les trucs qu'on ne pouvait pas faire sur Star Trek Next Generation, toutes les idées qu'on avait loufoques qui ne pouvaient pas rentrer dans le cadre, et bien là, dans Battlestar, on va faire ça. Et je trouve que c'est une super leçon sur déjà le fait que ouais, le câble et le network sont complémentaires, et aussi sur le fait que d'apprendre son métier avec des restrictions du network de « Ah, ça doit plaire au public, ça doit être censuré, ça doit être blablabla », te permet après aussi, une fois que tu as la chance de faire mieux, d'avoir une imagination plus large, en fait.
Je suis d'accord.
Oui, c'est...
Merci Marie, bel effort.
Moi, je crois pas au showrunner spontané qui fait tout de suite une grosse série du câble et qui devient ultra populaire. Le cas de Nick Pizzolatto...
Tu n'es pas fan de Mr. Robot?
Bah, on écoutez, en a déjà parlé pour ça, vous podcast. Pouvez écouter un très bon podcast.
Il faut qu'on parle
numéro 1, où je parle de mes réserves et de tout ce que j'ai aimé sur Mr. Robot. Mais voilà, Nick Pizzolatto fait une saison 1 de True Detective qui est encensée par les critiques. Et en saison 2, il se fait démonter la tronche. Je pense que c'est aussi injuste la première que la seconde au niveau de la réception. Mais voilà, le gars n'a jamais fait de télé avant. Il débarque là, il pense savoir exactement ce qu'il faut faire, ou il est très persuadé, ou il a très peur, j'en sais rien, je sais pas comment il vit le truc. Mais je crois pas trop à la génération spontanée. Nick Pizzolatto, j'aurais beaucoup plus cru à True Detective si Nick Pizzolatto s'était fait
10 ans dans un network,
sa réputation.
10 ans à Law & Order.
Ben voilà, par exemple, là je me dirais, ah, il a quelque chose à dire, et puis il a vu l'autre facette, donc il peut raconter les choses différemment. Là, non, bon, il a écrit des bouquins, après il fait une série, bon, ben soit.
Après, moi je pense que si on a 400 séries par an, c'est bien qu'il y ait de tout, et qu'il y ait aussi des gens qui soient issus de nulle part, et qui font qui aient aussi le courage du coup de pas suivre les règles, quoi.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que je pense quand même que les networks, il faut qu'ils soient restent un peu solides, parce que plus il y a des bonnes séries à papa, plus on va réussir à avoir ensuite des trucs transgressifs.
Mais là, vous trouvez que cette... Moi, j'ai l'impression que chaque année, depuis, je sais pas, 3-4 ans, on dit, ah bah cette année, vraiment, les séries des networks, mais il n'y a rien, c'est super nul, c'est hyper pauvre, c'est cliché. Et en fait, au bout de... Là, j'ai regardé, et moi, je regarde encore plein de séries de network de l'année dernière, parce que, qui sont excellentes encore dans les saisons 2. L'an dernier, il y avait How to Get Away with Murder, Blackish, Empire, Last Man on Earth. C'est que des séries qui sont apparues l'an dernier. Et l'an dernier, on disait déjà que c'était quand même pas la folie dingo du siècle.
Bah, Moi, je pense en toute honnêteté, je trouve déjà cette rentrée meilleure que celle de l'année dernière, même si tous mes critiques préférées disent le contraire.
Tu trouves qu'elle est meilleure cette année, ah, carrément.
Ouais. En fait, je trouve que l'année dernière, non, mais je trouve que l'année dernière, les pilotes étaient beaucoup plus agressivement débiles. Mm. Après, ça veut pas dire que les séries vont sauver. Tu vois, moi, l'année dernière, la série que j'ai regardée jusqu'au bout, c'était Stalker, donc je ne suis pas une référence. Moi, je me tape des tripes sur certains trucs. Faut pas essayer de quoi. Non, mais j'ai regardé Stalker et après j'ai regardé la version MTV débile du même sujet. J'avais un truc sur les stalkers. Bon, passons. D'ailleurs, je regarde toujours CSI Cyber pour des raisons aussi totalement inexplicables. Et en fait, c'est juste jubilatoire de regarder des séries qui essayent pas d'être autre chose qu'elles sont. Enfin, je sais pas, il y a un truc complètement. Une fois de plus, c'est mon nostalgie des années 80. Tout ça pour dire qu'en même temps, ce qui est rigolo, c'est que tu as dit Blackish, Empire, How to Get Away with Murder, les trois séries avec des leads afro-américains.
Ouais, j'ai mis Last Man on Earth aussi. Pour nos amis blancs.
Last Man on Earth, mais j'ai tenu 4 épisodes et j'ai eu beaucoup de problèmes avec le début de Last Man on Earth. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec le traitement de Kristen Schaal et j'arrivais pas à regarder la série du coup. Après, je me suis renseignée sur comment ça évoluait et ça a l'air intéressant, mais j'arrivais pas en fait. Je supportais pas. Mais en tout cas, les trois leads blacks, c'était aussi ce qui était rafraîchissant dans cette saison-là. Quoi. C'est tout d'un coup, il se passait autre chose à la télévision.
Ouais, bon après, How to Get Away, c'est pas non plus. C'est pas.
Non, mais Viola Davis. C'est juste, on n'a jamais vu ça à la télé.
Enfin, bah voilà, si, dans les autres séries de Shonda Rhimes.
Non, mais un personnage comme Viola Davis, non, on n'avait pas vu. Enfin, tu vois, c'est con, hein, mais déjà, elle est noire foncée. Ce qui, pour les Américains, est hyper important. Non, mais ça apporte tout un tas de trucs autour qui n'existaient juste pas. Moi, j'ai écrit un truc une fois sur Scandale, et j'ai réalisé en l'écrivant que c'était la première série avec une drama avec un personnage principal black, une femme black, depuis 1974.
Oui, c'est ça. Bah, c'est pas plutôt... C'est marrant, parce que là, c'est aussi depuis 1974 qu'il n'y avait pas d'actrice nommée...
Oui, mais parce que Kerry Washington n'a jamais été nommée. Elle n'avait jamais été nommée. Mmh. Mais oui, c'était Christie, Getz, je ne sais pas quoi. Ouais. Je vous conseille de lire mon article sur Test Magazine. Dedans, il y a le trailer du truc de 1974. Okay. je fais de l'autopromo pendant tout ce podcast. Mais pour terminer cette discussion, vous avez-vous un pari sur le premier truc qui va disparaître, la première série qui va se faire annuler
Qu'on espère ou on se dit que ça va vraiment...
Les deux, allez-y si vous voulez. C'est juste, sans explication, juste dites-nous lâchez-nous des titres.
Docteur Ken.
T'espères ou tu crois ?
Ah, les deux. Je vois pas comment ça peut fonctionner, en fait. C'est tellement creux, il y a tellement rien. Si ça continue, je crois plus en l'humanité.
Ça passe le vendredi soir. C'est une comédie ABC du vendredi soir. Le public, c'est le public de Last Man Standing, que moi j'adore, mais qui n'a pas des attentes. Je pense que tu surestimes le public.
Eh ben, je ne crois plus en l'humanité. Là.
Bon.
Moi, je pense que Minority Report va se faire trapper, mais je ne le souhaite pas.
Ouais.
Je pense.
T'as bien aimé ?
J'aime bien aimé le pilote, moi. J'étais.
Putain, l'épisode 2 est chiant, par contre.
J'ai pas regardé le 2 encore.
J'ai trouvé le 2 très chiant.
Je sais pas, franchement, peut-être que c'est parce que je m'étais tapé Limitless et Supergirl avant, mais c'était quand même assez bien. Enfin, correct dans la construction. Il y avait des scènes de plus d'une seconde.
D'accord.
Les acteurs jouaient pas mal. Enfin, en fait, c'était rafraîchissant dans cette nuée de bouse. Donc voilà. Mais donc j'aimerais pas. Trop.
J'ai vraiment pas accroché.
Question, vous avez vu quel pilote ? Parce qu'il y en a deux. Il y en avait un qui traînait sur Internet depuis des mois et qu'il y a ensuite celui qui a été diffusé.
Il y a beaucoup de changements entre les deux.
Oui, tout le personnage du frère est radicalement différent.
Ah bon ? Bah du coup, je sais pas.
Ouais. J'ai vu celui qui a diffusé.
Tu l'as vu le frère ou pas ?
Ouais.
Bon bah t'as vu le celui diffusé.
D'accord.
Ouais.
Dans l'autre, c'est ils disent je ne sais pas où est mon frère.
Ah oui.
Il faut que je le sauve. Ah, oui, donc rien à voir.
Ouais.
Rien à voir. Mais
est-ce que j'espère plutôt Il y en a tellement, il y a trop de choix. Allez, super girl.
Ah non ! Ah non !
Ah, si, veut qu'elle meure dans un feu, elle. Et pourtant, elle peut pas. Donc, un feu avec de la
vie. Oui, elle peut pas. Donc, franchement.
Moi, j'y crois à Supergirl. Mais bon, après, moi, je regarde tout.
L'épuisement.
Tout ce qui est super.
Ah non, ça c'est pas. En plus, j'adore vraiment les super-héros. Hein, mais justement, quoi. ça rend service à rien, à personne.
Mais attends de voir l'épisode 2. Moi, j'espère que l'épisode 2. Mais en plus, moi, je suis. Enfin, ma plus grande obsession quand j'étais ado, c'était Lois et Clark. Donc,
j'ai. Mais raison de plus.
Et j'ai pas aimé Smallville. Et du coup, j'aurais bien voulu retrouver cet univers-là.
Ah, bah, super. Ah,
bon. Non, moi, Blood and Oil.
Ouais.
Je pense que Blood and Oil va mourir d'une belle mort très très vite. Ouais, Blood and Oil, Blood and Oil, Blood and Oil.
Tu l'aimes pas, le Dallas qui voudrait être Deadwood, mais qui n'aime
pas
Dallas.
En plus, je trouve. Alors, j'ai regardé le truc, je trouve Don Johnson extrêmement bon, ce que je ne savais pas qu'il était capable de faire, parce que j'ai jamais vraiment regardé le truc depuis Miami Vice en VF qu'en 85. Il y a le mec qui jouait dans Greek, que j'adore, dont j'oublie le nom à chaque fois, mais qui se termine par Foster, qui joue son fils. C'est super ridicule au niveau de ce qui se passe dedans, donc ça donne presque envie de regarder. Mais personne n'a vu, en fait. Personne, tout le monde s'en fout de cette série. Donc, elle va mourir, c'est sûr.
Don Johnson, c'était le meilleur truc de From Dusk Till Dawn, la série, hein, qui était assez dramatique.
Quelle série? Il était vraiment bon
dedans. From Dusk Till Dawn.
Ah
la, oh de Robert Rodriguez. Oui, ils ont fait une série là-dessus.
Oui, sur sa chaîne à lui qu'il avait créé pour...
Ouais, sur sa chaîne. J'ai un film d'une heure et demie, je vais en faire une série de je sais pas combien d'épisodes parce que je délaye comme un gros porc. Et t'avais une scène qui était géniale avec Don Johnson où il expliquait à son partenaire que le nombre de jours où il allait encore voir sa mère avant qu'elle meure, s'il continuait à la voir uniquement pendant les fêtes. Et à la fin, il lui dit, bon ben voilà, avant que ta mère meure, tu vas la voir 27 jours.
Ah, ça me dit quelque chose, ça.
Et le mec était complètement dévasté. Et je trouvais cette scène absolument géniale, super bien jouée, super bien écrite. C'est le seul truc à voir dans From Dusk Till Dawn, la série. Je tenais à le dire.
En fait, ce podcast est consacré aux petits trucs de série qu'on n'a jamais l'occasion de raconter. pour terminer, parce que là, l'heure tourne, juste, on va faire un petit jeu, Dominique et moi, pendant toute cette année de série. On a décidé de choisir deux séries Network. Une dont on veut dire du mal, une dont on veut dire du bien, pour voir comment ça évolue justement, une série qu'on aime, une série qu'on n'aime pas, au long des épisodes, au long de l'année, jusqu'à, si on arrive à tenir jusque-là, jusqu'à la fin de la saison. Et donc on va essayer à chaque émission de parler un petit peu de là où on en est avec ces séries. Donc en gros, Dominique, tu choisis celle que tu as moins aimée et moi je vais faire pareil. Et ensuite celle que tu as le mieux aimée et que tu vas continuer à suivre et moi je vais faire pareil. Marie, est-ce que tu veux nous dire toi ce serait quoi tes deux séries?
Ouais.
Et d'ailleurs tu peux continuer à les regarder et nous dire sur Twitter ce que t'en penses. En tant qu'invitée, commence. C'est quoi la pire série que tu vas continuer à regarder pour voir si elle devient mieux?
Moi je vais regarder Heroes Reborn. Je vais être trop contente de regarder Heroes Reborn. Chaque semaine, c'était un délice. Non, mais en plus,
je te juge.
J'ai apprécié le pilote. J'ai apprécié les 40 premières minutes du pilote. Donc,
moi, j'ai tenu.
Mais comment t'as fait?
Mais non.
Comment t'as fait? Il se passe rien.
C'était
c'est
chouette.
Horrible.
Ils ont tué tout le monde et tout. C'est sympa. Il y a un peu de X-Men dans l'envie de traquer
les mutants. Oui, mais
il y avait
déjà du X-Men dans Heroes.
Allons plus loin.
Laisse Marie finir. Vas-y Marie, pourquoi sauf que Heroes Reborn c'est trop bien.
Mais ouais, c'est trop cool. Non, le pilote était sympa. Ensuite, non, parce que ça reste ma série, je la mets dans la catégorie série détestée que je vais continuer à regarder. Mais pour le coup, en plus, quand t'aimes bien les super-héros, c'est quand même un peu jouissif de voir des nouveaux gens avec des nouveaux pouvoirs. Donc moi, ils m'attirent avec ça et ils me garderont avec ça. Mais non, je trouve que c'était beaucoup. Je m'attendais vraiment à une bouse parce que tout le monde disait que c'était horrible et que le pilote était affreux. Et j'ai été agréablement surprise. Peut-être pas par la meuf qui se transforme en jeu vidéo. Là, ça m'a plu. Mais
je suis pas arrivée jusque-là.
Il y a quand même une femme qui devient un personnage de jeu vidéo. Ok, bon, passons à autre chose.
Non, mais à la limite, ça, pourquoi pas. Moi, mon problème, c'est que si t'arrives à me faire... à ne pas me donner envie de regarder un truc avec Zachary Levi,
mais
c'est
oui,
qu'il y a vraiment un
non,
problème.
Bien,
parce que moi, j'adore Zachary Levi.
Il est pas mauvais. Non, je suis pas sûre. Il est bien et il est pas mauvais. Il est correct.
Non mais et en plus moi c'est le vide transsidéral métaphorique de Heroes qui m'a fait abandonner au début de la saison 3 après m'être fait enfin tu vois moi
oui on s'est tous enflammés
Non mais moi j'étais en fait on s'est tous enflammés, ma théorie sur Heroes c'est qu'on s'est tous enflammés tant qu'il était que dans la suggestion. Et à partir du moment où il a commencé à dire des trucs ou à essayer de dire des trucs ou à montrer des choses, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien. Et c'est rigolo parce qu'il a écrit un mea culpa à la fin de la saison 2, un grand mail ouvert, une lettre ouverte à ses fans pour dire oui, on était nuls dans la saison 2 parce qu'on s'est trompé. Et il décrit pourquoi ils se sont trompés. Et c'est juste mais le contraire de la réalité, quoi. Le mec, il a juste rien compris au film. Il explique, ouais, on a essayé de raconter une histoire d'amour, on n'aurait pas dû, c'est pas notre fort. Et t'es là, mais c'est le seul truc intéressant de votre histoire. Enfin, et du coup, moi, j'ai pas confiance, un mec comme ça.
Je peux déjà annoncer un truc, je pense qu'il va écrire une nouvelle lettre dans quelques mois.
Bon, en tout cas, donc c'est ta pire que tu vas continuer à regarder. Donc, bah écoute, quand tu viendras nous rendre visite, j'espère que tu nous raconteras comment c'est. Et surtout, sur Twitter, continue à nous informer sur les évolutions de Heroes Reborn. Ta meilleure que tu vas regarder, toute la saison.
Ah, je vais regarder The Grindr, comme on l'a dit là. C'est une série intelligente et elle est bien. Les acteurs sont très bons. En plus, ça repose pas que sur Rob Lowe. Donc, moi, ce que je pensais à la base, le personnage du frère est assez intéressant aussi. Les personnages secondaires sont bien, sont justes et sont réalistes. Et puis même, il y a tout ce côté méta qui m'a vraiment surprise. Je me suis dit, ah ben en fait, vous parlez aussi d'autres choses, quoi. C'est pas juste un divertissement, vous allez un peu plus loin. C'est assez intéressant. Je pense que ça va être chouette.
Ouais, c'est tout un truc en fait sur effectivement le miroir aux alouettes, quoi. Le fait qu'il est plus crédible en tant qu'avocat parce qu'il a la prestance et le charisme qu'il a en tant qu'acteur, alors qu'il n'a pas les connaissances qui devraient aller avec. Et aussi, ça en dit long sur tout ce qu'on apprend sur un métier en regardant des séries.
Grave.
Genre, ouais, moi je peux trop me diagnostiquer toute seule parce
que moi je suis persuadée que je vais faire un MSS chimie Yono dès qu'on me demande.
Donc, Dominique, ta série la pire ?
Scream Queens.
Alors, j'avoue, c'est facile de prendre Ryan Murphy. Sauf que, moi qui déteste Ryan Murphy, j'ai vu les trois premiers épisodes. Mmh. Et ça m'a énormément plu. Je les ai vus d'un coup. Ce qui est, comme un ami me l'a dit sur Twitter, le plus gros what the fuck de la semaine. Que Yael aime Ryan Murphy. Donc, je pense que c'est un sujet de conversation passionnant avec toi, Dominique. Tu veux nous dire pourquoi tu détestes ?
Je vais dire surtout pourquoi j'ai choisi Scream Queens et pas une autre série que je trouve absolument catastrophique, comme ça pourrait être Rosewood ou Dr. Ken ou The Player. C'est que j'ai l'impression que sur Scream Queens, je trouve ça mauvais, mais au moins j'ai des choses à dire.
Ouais, c'est ça.
C'est un peu l'avantage. Du coup, ça sera plus intéressant de parler de ça que de parler du fait que le cas de la semaine de Rosewood n'était pas très intéressant.
Mais qu'est-ce que tu n'aimes pas ?
Je commence à... qu'est-ce que j'aime pas ?
Pourquoi tu l'aimes pas, quoi ?
Non, mais on a plus de 2 heures de podcast.
non, mais pourquoi j'aime pas Scream Queens ? Ouais. J'ai aucune émotion pour... Je ne ressens aucune émotion quand je regarde Scream Queens. Je ris pas suffisamment, je n'ai absolument pas peur et je me fous complètement des personnages.
D'accord.
Et toi, Marie, ça te plaît ?
Ouais, moi, j'ai beaucoup aimé. Après, l'épisode 3 m'a un peu déçue, donc j'attends de voir la suite. Mais j'adore la grandiloquence et le truc tout poussé à l'outrance, parce qu'au milieu de ça, de temps en temps, t'as des petites répliques qui font quand même pas mal la série, des bonnes vannes assez sèches. Et puis même, t'as quand même une fille qui se fait tuer et elle prend le temps d'aller updater son compte Twitter pendant qu'elle se fait tuer. Enfin, moi, ça me fait quand même beaucoup rire. Je pensais que ce serait...
Oh, c'est gratuit,
mais
cette
oui,
scène-là.
Mais non,
mais oui, mais
parce
c'est
que
le but,
justement, c'est
du camp.
Poussé à l'outrance. C'est,
ouais.
Et parce
mais
que moi, je pensais que ce serait une critique bête et méchante des ados qui sont toujours sur leur téléphone portable. Et non, en fait, ils retournent le truc parce qu'ils le poussent à l'extrême. Et je trouve que c'est assez
Et surtout, je trouve qu'il y a un truc à travers le personnage de notre amie Scream Queen number one, traditionnelle, Jamie Lee Curtis, qui, sur aussi le jugement des femmes envers d'autres jeunes femmes.
Ouais.
Enfin, moi, c'est un truc qui me passionne, le fait que dans le féminisme, on a l'impression que, du coup, être féministe, c'est aussi cracher sur les nanas qu'on ne considère pas comme étant ayant un comportement assez, assez positif pour les femmes. Et du coup, ça, c'est... Tu vois, en fait, c'est du contrôle de comportement qui est tout aussi néfaste.
Ouais. Mais ça, c'est un débat au sein du féminisme. C'est pas non plus monnaie courante...
Ah oui, mais je trouve ça toujours passionnant, tu vois. Moi, je suis fascinée à quel point on crache tout le temps sur les pop stars féminines parce que elles sont trop comme ci, elles sont trop comme ça, beaucoup plus que sur les mecs. Et je trouve qu'il y a un truc sur le jugement que Jamie Lee Curtis porte sur ces nanas qui est vachement intéressant, en fait, parce que justement, ça montre que ce jugement est pas complètement fondé. Et en même temps, c'est quelque chose qui existe dans le monde. Et en fait, moi, je déteste Ryan Murphy d'habitude, sauf que j'ai lu un article il y a quelques années de Emily Nussbaum sur le camp dans Ryan Murphy, et que petit à petit, ça m'a fait commencer à comprendre. Et jusque-là, il n'avait jamais fait un truc qui pouvait rentrer dans mes goûts. Et je pense que ça, c'est la série.
Même Nip
Tuck. Enfin, si Nip Tuck, les premières saisons, la première saison surtout, j'ai adoré. Et ensuite, assez rapidement, c'est le côté, effectivement, il n'y a pas de cœur, quoi. Il y a des tripes, il y a du cerveau, mais il n'y a pas de cœur.
Oh, bah, tu t'es pas tapé Glee, alors ?
Je me suis tapé 2 saisons de Glee. Oh, mais sinon, c'est pas du vrai cœur, c'est de l'hystérie.
Ouais.
Il n'y a pas de vérité émotionnelle. Mais parce que c'est pas son sujet, en fait. Le problème, c'est que c'est moi, c'est ce qui m'intéresse. Ah, donc, c'est toujours la... C'est tous les nombreux débats que j'ai avec Renan Crowe sur la question. Mais d'ailleurs, il faudra qu'on invite pour parler de Scream Queens, du coup. Moi, ma série pire, c'est Grandfathered. Parce que je dis que c'est pire parce que mon cerveau me dit que c'est quand même un peu abusé, cette sitcom avec John Stamos, où il fait un grand-père surprise. Parce que dans le pilote, il apprend que non seulement il a un fils, mais il a une petite fille de 6 mois. Mais en fait, le truc, c'est que je sais que je vais la regarder. Parce que moi, les pères perdus qui retrouvent leurs enfants, je suis incapable de résister. En plus, il n'y a pas Jet Brewster dedans. Ouais. Et en plus, dans la fin du pilote, ils te font comprendre qu'il y a vaguement un passif amoureux qui va être exploré, qui veut dire que donc des gens de plus de 40 ans vont avoir peut-être une histoire d'amour. Et ça, j'adore. Parce que j'en ai marre de voir les gamins de 25 ans tomber amoureux.
Et puis ça donne un petit côté Cougar Town, en fait. Parce que le prémisse, en effet, c'est Grandfather. Donc il devient grand-père. Et en même temps, tu t'aperçois assez rapidement que
c'est pas le sujet.
C'est pas le sujet de la série. Et ça peut être intéressant si c'est ça. Moi, j'ai un peu peur, mais ça peut être intéressant si c'est ça.
Non, et puis l'intérêt, c'est que vu qu'on est tous les deux fans de Padgett Brewster...
Complètement. Et puis elle est géniale, elle est plutôt bien servie dans cette série.
Du coup, on va de toute façon regarder. Donc on a un peu triché, on a choisi des séries qu'on était sûr qu'on allait regarder de toute façon.
Qu'on puisse en discuter quand même.
Et donc la meilleure pour toi, Dominique ?
Écoute, moi je vais continuer The Grindr aussi. Oui. J'aime vraiment beaucoup. Ouais.
Bah moi je suis contente de la regarder aussi. Donc. C'est Fred ou Ben Savage ? Je sais plus. C'est lequel des Savage ?
Fred.
C'est Fred. C'est celui de. Le truc de quand il était petit dans les années 60.
C'est ça.
50 ? Ah, a little help for my friend.
Ouais, voilà. J'allais dire avec Joe Cocker.
C'est ça le truc avec Joe Cocker.
C'est un.
Dont j'ai oublié le titre. Ok, donc c'est lui. Ok.
C'est lui, et lui il est plutôt, en fait ils sont plutôt tous bons en fait, hein. C'est t'avais l'ex de, je sais plus, de Charlie Day dans It's Always Sunny in Philadelphia qui joue la femme, donc t'as Savage donc, qui est sorti de sa retraite d'acteur.
Elle
juste pour,
putain j'étais là, mais c'est qui cette meuf, mais oui c'est elle bien sûr, elle est vraiment
super. Et donc, Roblo, c'est ce que j'avais sorti sur Twitter, en fait. C'est Roblo qui parodie le Roblo de Parks and Recreation, ouais. Qui parodiait le Roblo de The West Wing. Plus on avance dans la carrière de Roblo, plus il atteint un niveau supplémentaire de parodie. Donc ça risque d'être très drôle sur les prochains projets. Ça va être n'importe quoi. Mais là, non, j'aime beaucoup. Je trouve ça c'est une des rares comédies de la rentrée qui me fait vraiment, vraiment rire. Ouais.
Bah écoute, moi je la regarderai avec plaisir aussi pour en parler avec toi, mais moi, ma comédie, c'est bien sûr, enfin je dis ma comédie parce qu'effectivement je me rends compte que c'est une comédie, qu'en fait on a pris beaucoup de comédies d'ailleurs, parce que Scream Queens, ouais. Heroes aussi, hein, c'est un peu oui. Une comédie, mais ma série, et dès que j'ai vu le trailer, je savais que c'était ma série de l'année, et le pilote ne m'a pas déçue.
Non, ne dis pas, non.
Si, c'est Crazy Ex-Girlfriend, non. Mais déjà parce que je parie toujours sur la CW.
Et parce que quand même, c'est plutôt pas mal.
Et parce que c'est, y a pas une seconde de ce pilote que je n'ai pas aimé, et surtout y a des moments que j'ai adoré. Alors j'aimerais juste savoir, Marie, mais ça t'a pas plu ?
Mais quelle horreur ! Ah non, mais vraiment. En plus,
mais comment c'est possible ?
Mais déjà elle chante.
Pour être. Ah oui, non, mais c'est ça. J'allais te dire, je suis sûre que t'es allergique aux gens qui
chantent. Non, parce que j'adore Galavant. Je suis hyper tolérante sur ce genre de truc. Mais là, je trouve que c'est. Non, c'est pas. À la limite, c'est pas vrai parce que cette chanson de la salle de bain m'a fait rire.
Donc, en fait. Elle va mourir de rire, ça.
En fait, les 20 premières minutes m'ont affligée. J'ai trouvé ça très très nul. Et vers la fin, il y a eu quelque chose où enfin ils faisaient un peu des blagues ou. Qui était un peu différente, donc ça m'a pas donné envie de la considérer comme la pire série ou mais par exemple l'acteur qui joue en face d'elle qui est asiate, dont je connais pas le nom,
mais pour l'instant il a pas le temps d'exister,
mauvais. Et qu'est-ce qui est utile
Je pense. Bah oui, mais si, justement, enfin, j'ai envie de dire, c'est le principe. C'est que justement, non, ça montre à quel point elle fonde un fantasme sur un truc qui est vide.
Ouais, mais tu peux être vide et savoir jouer. Enfin, tu peux savoir jouer.
Mais peut-être qu'il le saura. Et surtout, l'autre mec, moi j'ai tellement adoré l'autre mec.
Ouais.
Mais et ça, c'est surtout
qui m'a fait rire. Il m'a fait rire alors que j'avais déjà vu les trucs dans le trailer. Mais le moment génial où il dit et tu ignores tout ce que je dis, donc clairement, tu es mon type. Non, et surtout, il faut dire la scène de fin que je ne spoilerai pas pour les gens qui ne l'ont pas vu. le tag à la fin avec un rappeur qui passe des coups de fil. C'est un grand moment. Ouais. Personnellement, moi, j'ai adoré.
Ouais, et c'est vrai.
Prenons les paris, Marie. Prenons les paris. Dans 6 mois, on en reparle et on voit si c'est pas une série de
attends,
c'est pas une des meilleures séries de l'année.
Tu peux pas ne pas avoir aimé le moment où justement elle s'épile et où t'as une gerbe de sang qui arrive sur la baignoire.
Ah non, ça c'est pas mon humour.
Ça m'a pas fait rire non plus. Je pense que c'est important que des gens le voient, que des hommes le voient.
Bah oui, c'est ça.
Oui.
Non, mais, et tu te dis, mais putain, ah ouais, quand même, sur la CW, ils font ça. Ok, d'accord.
Ouais, c'est vrai.
Après, la grande question de Crazy Ex-Girlfriend, c'est que ça a été développé pour Showtime, ça a été tourné pour Showtime et ça a été remonté pour la CW.
Ouais, c'était un 26 minutes à la base.
Donc,
ça aussi, 30 déjà, c'est un échec.
Un 30 minutes Showtime.
C'est un 30 minutes Showtime qui a été remonté en 42 minutes pour la CW. Donc, tant qu'on n'a pas vu l'épisode 2, là, j'ai envie de dire encore plus que pour le reste. Attends, mais moi, je parie. Ouais. Moi, attention, je prends le pari. Blood and Oil va se faire jarter en premier et Crazy Ex-Girlfriend va être génial.
Ouais. Voilà. Bon, on va continuer à regarder.
Et sinon, tu voulais pas parler de Quantico aussi, Marie ?
Si, parce que j'aime bien. Mais c'est pas une passion comme The Grindr qui va être vraiment cool, je pense. Mais, et puis, Quantico a l'air de tenir sur un fil, quoi. Enfin, ça peut quand même vraiment, vraiment partir en couille si on fait pas attention. Donc, je vais faire très attention. Mais j'ai beaucoup aimé le pilote parce que. Et je trouve que c'est Variety qui a mis exactement les mots justes sur cette série. C'est qu'elle aurait pu s'appeler How to Get Away with Murder 2 Terrorism Version. Et c'est vraiment ça. C'est vraiment l'édition terroriste de How to Get Away with Murder.
Oui, c'est ça.
Parce que t'as tout, quoi. T'as les personnages, les jeunes qui sont tous beaux et des personnages survoltés. Et t'as l'actrice principale qui est forte et qui joue pas forcément très très bien. Mais.
Oh, moi j'aime bien les twins. J'aime bien les jumelles.
Ouais, les twins, il y a le mec qui fait semblant d'être myope pour s'attirer de la sympathie des gens. Enfin, donc il y a des choses qui ont été mises en place qui seraient intéressantes de voir sur le long terme.
Je sais,
et puis surtout, une série pour la star de Believe.
C'est qui?
Il n'y a que toi qui connais Billy.
Ouais, je
qui se souvient de Billy.
Non, mais surtout, je m'en souviens parce que, un, j'ai regardé tous les épisodes à l'époque, et deux, une fois de plus, je vous dis, les pères perdus qui retrouvent leurs enfants, c'est un truc que je ne sais pas résister. Et surtout, j'ai revu le pilote à côté de toi, Dominique, à Cérémania, et je me rappelle que j'ai réalisé sur grand écran, c'était pire un pilote mal écrit que sur petit écran.
Je confirme, j'avais la même sensation.
Mais tu te rappelles pas, c'était le truc du mec qui découvrait qu'il avait une gamine qui avait des pouvoirs vaguement magiques. Bon, je te dis que le seul truc bien dans cette série, c'était la chemistry entre la gamine et le mec. Et donc, je suis content que le mec ait une nouvelle série. Voilà.
Et
c'est celui qui fait l'agent undercover qui couche avec le personnage principal dans la première scène.
Ok.
Ce qui me fait marrer à chaque fois que je regarde Quantico, c'est que je me dis que j'espère que cette série arrivera à une saison 4 ou 5, parce que je pense que les saisons suivantes, ça va être juste mais n'importe
c'est
quoi.
Vrai, c'est clair, j'ai trop hâte.
Et je sais pas, c'est pas une limited series, c'est
non,
vraiment...
Non, c'est leur prochaine, nouvelle série, quoi.
Oh, ça va être grandiose.
Ah, alors, Marie, quand ça commence à partir en vrille, je te demande de revenir nous parler pour qu'on puisse parler ensemble.
Ok, ça va, je vous ferai un petit bilan.
Ah bah, la semaine prochaine, alors, je pense.
Une spéciale spoiler edition où on parle de tout ce qui se passe de complètement débile et délirant dans Quantico. Je pense que ça peut être sympa. En tout cas, merci à tous les deux pour cette conversation passionnante et de toutes vos opinions diverses et variées sur ces pilotes de rentrée et sur les networks en général. On va vous retrouver très vite pour de nouvelles conversations passionnées. En attendant, surtout, dites-nous ce que vous pensez des pilotes de notre conversation, de notre podcast sur Twitter, notamment. Marie, sur Twitter, on te trouve où ?
On me trouve à Turc en Marie.
Tout simplement. Dominique
@itsthedom, ITSZEDOM.
Et moi, on me trouve à @yaelka, YAELKA. Vous pouvez aussi nous contacter sur le site directement. Vous verrez dans le post, on vous donne l'adresse. Et surtout, n'hésitez pas à lire toutes les petites blagues et les bêtises qu'on écrit sur le post. Et parfois aussi, on corrige les erreurs qu'on a dit dans le podcast. On se retrouve très très vite. Salut! Mais Marie, si tu veux sortir.
Non, parce que c'est très drôle à écouter.
Tais-toi. Horrible.
D'ailleurs, tu disais que tu voulais libérer Marie, mais tu penses qu'on devrait libérer Nicolas Robert
maintenant. Oui, il faudrait vraiment que vous le libériez.
Nicolas Robert qui veut rentrer chez lui. En plus, il avait des guatémaltèques chez lui la dernière fois. Il avait lui faire à manger. Et donc, il comptait les heures pour rentrer chez lui bouffer guatémaltèques. Enfin bon, pas ça. Donc. Je reprends, qu'est-ce que je disais ?